La bienvenue, le retour à tout le monde qui sont revenus. On est bien content de se retrouver. On a eu un été assez occupé. C'est que là, on revient, puis on va te souhaiter la
Camille
bienvenue, Camille.
est là.
Bienvenue dans le groupe. On est content que tu te joignes à nous. Puis, c'est ça, on recommence notre étude. Ce que je vais vous mettre en sourdine. Puis, on va commencer notre étude. Attendez un petit peu. Il faut que je me rappelle comment mettre en sourdine. Attends un petit peu. Ça sera pas long. J'essaie de.
Faut tout oublier ça, Gérard.
Ben là, c'est ça.
T'as eu tout l'été pour te pratiquer.
Là, je l'ai. OK, je l'ai là, ça marche. Fait que, on commence. OK. OK, bienvenue à tous. On est bien content de se retrouver encore pour l'automne, commencer nos études encore qu'on fait les lundis soirs. Puis ceux qui se sont joints, comme Camille, on te souhaite la bienvenue. Puis on demande au Seigneur de nous donner encore un bon temps dans sa parole, qui est importante parce que. On a besoin de connaître, puis il y a tellement de choses à connaître dans la parole. On n'a pas peur d'exaucer toutes les connaissances qu'il y a dans la parole, mais c'est toujours une bénédiction. Ça fait qu'on va continuer ce soir. On était dans l'Épître aux Hébreux. On avait fait la dernière fois, on avait fait le chapitre 11 qui nous parle d'une si grande nuée de témoins, hein, des témoins de la foi, des gens qui sont nommés dans la parole de Dieu comme étant des gens qui ont mis leur foi dans le Seigneur. Puis qui ont marché par la foi durant leur vie, afin que, puis vraiment le couronnement de la foi, ben, c'est d'aller dans la présence du Seigneur pour l'éternité, puis avoir, puis la foi a cette espérance sûre et certaine à cause du fait que notre foi est mise dans l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie pour nous sur la croix. C'est pas dans nos œuvres. Nous, on se sent faible souvent, puis on manque souvent, mais. Le Seigneur, lui, ne manque pas. Puis notre espérance est basée sur son œuvre à lui. Puis nous, maintenant, on apprend à marcher avec lui. Mais on commençait maintenant avec le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, qui continue le thème de la foi. C'est qu'on va s'arrêter pour lire une partie du chapitre 12 qu'on va regarder ensemble ce soir. Donc, en vue du chapitre 11, la nuée de témoins, il nous dit ici au verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé, l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir, pour la lecture de la parole, pour demander au Seigneur de nous bénir dans sa parole. Seigneur notre Dieu, encore une fois, on se courbe humblement dans ta présence, en reconnaissant ta grandeur, ta toute-puissance, et aussi ta parole qui est merveilleuse, notre Dieu. On se courbe ce soir avec un désir de pouvoir la connaître de plus en plus, parce que c'est par elle que tu nous communiques les choses qui sont précieuses pour toi et les choses qui sont précieuses dans notre marche avec toi. Seigneur, on te demande de nous garder, de nous préserver et de nous diriger ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. On te remercie pour tous ceux qui sont revenus pour faire cette étude encore les lundis soirs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. OK, donc on avait dit, quand on a entamé le chapitre 11, parce que les derniers chapitres de l'Épître, c'est 11, 12, 13, puis on avait dit que ces derniers chapitres-là de l'Épître correspondent comme 1 Corinthiens 13, 13, qui disait: Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, il y a trois choses ici. Puis ces trois chapitres-là, le chapitre 11, 12 et 13, le chapitre 11 nous parle de la foi. Le chapitre 12, lui, nous parle de l'espérance. Puis le chapitre 13, il nous parle de l'amour qui se manifeste par le dévouement. Le chapitre 11, il se termine où est la foi ici sur la terre? Si on regarde le dernier verset du chapitre 11, il dit, dans le verset 38 du chapitre 11, il nous dit ici, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Donc, c'est les gens qui avaient la foi. Puis c'est là que la foi se termine ici sur la terre. On est rejeté. À cause de la foi, on est rejeté dans le monde. Mais le monde n'était pas digne d'eux autres. Mais le fait qu'on est dans le monde, c'est une bénédiction que le Seigneur donne parce qu'on est des lumières dans le monde. On est des gens qui sont des témoins de la vérité. On est des gens qui professent le salut en Jésus-Christ, puis qui est le salut pour les gens qui sont dans le monde. Mais le chapitre 12, lui, se termine où est l'espérance sur la terre? Donc, on voit dans le verset 28 du chapitre 12, il nous dit ici, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Donc ici, le chapitre 12, lui, il se termine, c'est notre service dans l'attente. Donc c'est ça qui est l'espérance. À cause de l'espérance qu'on a, bien, on sert le Seigneur, puis on sert en l'attendant. Le chapitre 13, lui, il nous introduit dans ce qui sera le thème dans la gloire, c'est-à-dire l'amour exprimé dans le dévouement. Puis c'est vrai que l'amour, c'est un grand motif pour le dévouement. L'amour, ce n'est pas la peur qui peut nous donner le motif pour le dévouement, mais c'est vraiment l'amour. Parce que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils nous sauver par amour pour nous sauver de nos péchés. Puis nous, on répond à cet amour, comme Paul pouvait dire, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Puis on dit, lui, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Donc l'amour exprimé dans le dévouement, puis ça va être comme ça dans l'éternité, dans la présence du Seigneur. Ça va être l'amour du Seigneur, puis notre amour qui a répondu à son amour, puis ça va être un dévouement dans l'adoration pour le Père. Dans le chapitre 13 du verset 13, chapitre 13, le verset 13 à 16, il dit, et suivez, ah non, attendez un petit peu. Il nous dit ici, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Puis le verset 20 et 21, il nous dit, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, c'est vraiment l'amour qui se transmet dans le dévouement. Puis c'est certain que l'amour, c'est le motif qui nous donne de pouvoir servir le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, puis c'est un motif très puissant. Donc, quand on arrive ici dans le chapitre 12, au verset 1 à 3, qui nous dit: Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Donc ici, il nous présente une ouverture qui est devant nous. Puis cette ouverture-là, ben, on s'y engage par la foi. Parce que la vie chrétienne, c'est une course vers la gloire. C'est une course vers la gloire, mais une course qui est jonchée, c'est un chemin qui est jonché de difficultés et de dangers. Le Seigneur nous a pas conté des mensonges par rapport à ça. Il nous a dit tel que c'était. C'est vrai. C'est sûr que quand on regarde à la gloire future, ça va être merveilleux. Il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de ni peine, ni cri, ni douleur. Il n'y aura plus de la mort. Ça va être merveilleux. Puis c'est sûr que les gens qui ne croient pas à ça, ben, ils peuvent pas avoir l'énergie de la foi pour courir dans la carrière, parce que c'est ça qui nous pousse. On regarde, même si on a des difficultés présentement, même si on a des souffrances à faire face, bien c'est le fait qu'on a quelque chose devant nous, c'est la gloire qui s'en vient. Mais c'est une course qui est vers la gloire qui est jonchée de difficultés, de dangers, mais on a le grand exemple devant nous. Notre précurseur. Quand on pense au Seigneur Jésus, nous, ça nous sort de la mort, ça nous sort du péché, ça nous sort des souffrances vers un état éternel de félicité. Mais le Seigneur Jésus, lui, était déjà dans la gloire. Mais il a choisi de devenir un homme, de venir sur la terre pour souffrir sur la terre. Pourquoi? C'est pour nous qu'on puisse se joindre à lui. Fait que lui, en échange de la joie qui lui était, comme il dit ici, en échange de la joie qui lui était réservée, quelle était cette joie? Ben, c'était de nous avoir rachetés dans sa présence, dans la félicité, dans la gloire pour l'éternité. En échange de ça, qu'est-ce qu'il a, comme il dit ici, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, il a vu ces choses, il connaissait entièrement ces choses, mais il a voulu vraiment accomplir cela pour qu'on puisse se joindre à lui. Puis des fois, on se demande pourquoi que Dieu aurait voulu nous avoir avec lui. Ben, c'est peut-être l'aspect de la communion, hein. L'aspect de la communion, c'est que quand on voit quelque chose de beau, quand on voit quelque chose qui nous donne une joie, c'est toujours une plus grande joie quand on peut le partager avec quelqu'un d'autre. Quand il envoyait des cartes postales, quelqu'un qui était à visiter des endroits, il disait en anglais, il disait, Wish you were here. C'est-à-dire, j'espère, je voudrais que tu sois ici pour pouvoir qu'on puisse partager. Parce que quand on partage quelque chose de bon, ça devient encore plus bon. Parce que c'est ça, c'est ce que Dieu a fait. C'est le principe de Dieu, c'est le désir de Dieu de partager tout ce qu'il a, tout ce qu'il a de merveilleux. Il veut le partager avec nous. Puis c'est ça qui est l'objet de la communion ici. Mais le Seigneur, lui, est notre précurseur. Puis lui, il est le grand exemple pour nous. Parce que si, c'est pas juste qu'il nous demande de faire face à toutes ces situations-là, juste parce qu'il aime nous voir souffrir. Mais lui-même a passé par là, puis il a tracé le chemin devant nous. Pour ça qu'il nous parle d'une carrière ouverte, là. On a les regards sur lui, qui lui a déjà passé par le même endroit, dans la souffrance, puis maintenant il est dans la gloire, puis c'est ce qu'il fait, c'est son désir de nous transporter d'ici vers là. Donc il connaît par expérience, il connaît toutes les difficultés auxquelles on a à faire face. Quand on pense à ça, on peut penser à Job. Hein. Job a passé des grandes difficultés, des souffrances terribles. On se demande même comment est-ce qu'il aurait pu supporter toutes ces choses-là. Puis Job n'aurait jamais choisi de passer par là. Puis nous autres non plus, on ne choisirait pas les souffrances. Mais quand on passe dans la souffrance, c'est là qu'on est le plus près du Seigneur. C'est là qu'on est le plus dépendant. C'est là qu'on a besoin de sa présence. Les chrétiens persécutés, la présence du Seigneur est tellement réelle pour eux, ils en ont besoin. Ils ne peuvent pas se passer de la présence du Seigneur. Puis dans ces moments de grande souffrance, je parlais de ça avec un frère et une sœur aujourd'hui, quand on commence dans la vie, puis on a des difficultés, que ce soit des difficultés financières ou autres, c'est difficile, mais ça nous amène à se mettre à genoux devant le Seigneur, puis de voir comment il répond à nos prières, comment il prend soin de nous. Lui, il connaît toutes ces difficultés-là, il les connaît par expérience. Puis c'est pour ça qu'il peut avoir de la compassion pour nous autres. Il nous dit dans Hébreux 2:10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc il voyait toutes ces choses-là, mais il voulait nous conduire à la gloire, mais il a élevé par la souffrance le prince de leur salut. Donc il nous a mis un guide devant nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui passer par la souffrance, il comprend, il peut sympathiser avec toutes les circonstances dans lesquelles on se retrouve, mais le but, ben, c'est de nous emmener à la gloire avec lui, où il n'y aura plus, ces choses-là vont être du passé. On va l'éternité, on va refléter sur ces choses-là, on va dire, on va voir comment le Seigneur a été fidèle, on va voir comment le Seigneur a fait un grand travail de nous arracher du siècle présent pour nous emmener dans sa présence pour l'éternité. Ça, c'est vraiment merveilleux. Mais Satan, lui, a voulu s'élever à la gloire sans passer par les souffrances. C'est ça le péché de Satan, c'est qu'il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Mais il l'a fait, c'était pas sans passer par la souffrance, puis ça peut pas être. C'est pour ça que Satan a été abaissé. Satan a été abaissé, puis éventuellement, il va être jeté dans l'étang de feu. Il n'aura pas accès à la gloire, parce qu'il a voulu accéder à la gloire sans passer par la souffrance. Mais même il a offert au Seigneur Jésus d'accéder à la gloire sans passer par la souffrance. Puis le Seigneur Jésus a refusé, parce que le Seigneur Jésus savait que c'était le but de passer par la souffrance pour en arriver à la gloire avec nous. Il s'est fait homme pour venir nous chercher puis nous emmener à la gloire. Dans Luc 4, 5, 6, il dit, le diable l'ayant élevé, c'est le Seigneur Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Mais le Seigneur l'a refusé. Le Seigneur a refusé, c'était la tentation, mais le Seigneur l'a refusé. Puis cette gloire est temporaire. C'est toute la gloire que lui parlait, là, parce qu'il dit en un instant, il lui a montré en un instant tous les royaumes de la terre. Mais ça, c'est dans le temps. C'est dans le temps présent. Puis c'est passager. C'est pas éternel. C'est pour le temps seulement. Le Seigneur, lui, il ne s'est pas détourné des souffrances, mais il était déterminé vraiment d'aller vers la croix. Il nous dit dans Luc 9, 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. En sachant très bien ce qui allait se passer à Jérusalem, il n'a pas fui. Le Seigneur, puis en anglais, il dit, il a tourné fermement son visage vers Jérusalem. Comme un caillou vers Jérusalem. Il s'en allait à Jérusalem, il savait exactement ce qui allait arriver à Jérusalem. Puis c'est là on sait que c'est sur la montagne de la Transfiguration, il avait parlé de son exode ou sa sortie du monde avec Moïse et Élie. Puis c'était en passant par la croix du calvaire. Le Seigneur Jésus n'a pas reculé devant ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit au verset 2 du Hébreu 12, il dit, 2 et 3, il dit, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Puis l'apôtre Saint nous dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'en décourager. Puis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans le monde dans lequel on vit, le monde devient de plus en plus contraire à la pensée de Dieu. Puis même la pensée de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, c'est devenu quelque chose de répugnant pour le monde. Le monde ne veut plus en entendre parler. Et même, on dirait qu'il commence à y avoir beaucoup d'intolérance pour la pensée de Dieu dans le monde dans lequel on vit. Puis, si on recherche à devenir de plus en plus comme lui, on va vraiment ressentir fortement l'opposition du monde. Puis, on va recevoir aussi la persécution du monde si on veut marcher. Parce que même la Bible est vue comme un livre qui est contraire à la pensée moderne. En anglais, ils appellent ça the hate literature. C'est une littérature de haine. Parce que à cause que la Bible dévoile le péché qui est appelé bien maintenant, mais c'est le mal. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Puis c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Mais le Seigneur Jésus, on sait que lui, il a vraiment ressenti cette opposition-là parce que nous, plus qu'on devient comme lui, c'est ce qu'on veut devenir de plus en plus comme lui, plus qu'on va devenir comme lui, plus on va ressentir cette opposition-là. Mais lui étant le standard de la sainteté dans un monde qui est de péché, eh bien, il a ressenti vraiment cette opposition-là. C'est pour ça qu'il parle ici. Qui est une telle opposition de la part des pécheurs. Donc, le Seigneur a ressenti ça, une telle opposition. Pendant qu'il marchait, le Seigneur marchait avec ses disciples, il leur annonçait ses souffrances. Il leur disait qu'il devait souffrir. Dans Matthieu 16, 21, dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Mais ça, c'est la pensée de Dieu. C'était le chemin de Dieu. Il fallait qu'il passe par la souffrance pour accéder à la gloire, pour nous emmener avec lui à la gloire. Mais même les disciples ne pouvaient pas concevoir ça. On sait que les disciples, eux, ils s'attendaient de voir apparaître le royaume à n'importe quel temps, que le Seigneur allait prendre le contrôle du monde, puis qu'il allait. Mais il y avait un problème, c'est qu'il fallait qu'il souffre d'abord. Mais les disciples, ils ne pouvaient pas concevoir cela, que le Seigneur devait souffrir. Puis on le voit dans Matthieu 16, 22, après que le Seigneur avait annoncé ses souffrances à ses disciples, on voit que Pierre, lui, il voulait pas concevoir ça. Puis Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Donc, dans les pensées de Pierre, là, il ne fallait pas que le Seigneur souffre, mais dans la pensée de Dieu, il fallait qu'il souffre. Mais le Seigneur, il a identifié cette remarque-là de Pierre. Puis, d'une façon tellement drastique, au verset 23 de Matthieu 16, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est quand même toute une réprimande, là. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais vous, la différence entre la pensée des hommes et la pensée de Dieu, non, il ne voulait pas que le Seigneur souffre. Et même quand le Seigneur est apparu à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, après qu'il avait souffert, ils ne comprenaient pas encore qu'il fallait qu'il souffre comme ça. Puis le Seigneur leur a dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis là, il a pris dans toutes les Écritures pour leur montrer qu'est-ce que l'Écriture disait de lui. Mais après avoir parlé à ses disciples, après leur avoir dit qu'ils devaient souffrir de la sorte avant d'aller à la gloire, bien là maintenant, après ça, il fait un appel. Il fait un appel à ses disciples. Dans le même passage de Matthieu 16, il fait un appel à ses disciples de le suivre maintenant. Alors Jésus dit à ses disciples au verset 24 et 25, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc, après avoir annoncé ses souffrances qu'il devait subir, eh bien, là, il nous appelle à le suivre. Puis le chemin, c'est le même chemin. Donc, il nous demande de le suivre dans ce chemin-là qui va être des souffrances. Mais, vous savez, il y a trois choses qui sont mentionnées ici, là, qui peuvent nous empêcher de courir dans la carrière. Il y a trois choses. Au verset 1, il nous dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc ça, c'est deux choses qui peuvent nous empêcher de courir dans la carrière, les fardeaux, puis le péché. Puis au verset 3, la troisième chose, c'est l'âme découragée. Au verset 3, il nous dit, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ça, c'est trois choses dans le chapitre ici qu'on voit qui vont nous être un obstacle à ce qu'on continue dans ce chemin-là, la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, puis qui va nous empêcher d'avancer ou de courir dans cette carrière-là. C'est le chemin qui nous a été, auquel on a été appelé par le Seigneur pour le suivre. Donc, les fardeaux, ben, il ne faut pas que les choses de cette vie nous empêchent de courir. Il y a des choses dans la vie, il y a des choses qui sont légitimes. Comme Paul dit, toute chose est légitime, mais toute chose n'est pas nécessaire. Donc, il y a des choses, des fois, qui sont peut-être légitimes, mais il ne faut pas que ça nous empêche de courir ici. C'est quoi que. Si on regarde ça en vue de qu'est-ce qui est important en bout de ligne? C'est quoi qui est important en bout de ligne? Les choses de la terre ou les choses éternelles? Puis c'est là que ça fait toute la différence, là. Mais ce qui est important en bout de ligne, c'est de continuer dans le Seigneur. Vous savez, on voit des gens qui sont retournés en arrière. On voit des gens qui, même après avoir été avec les gens de la foi, ils sont retournés en arrière, puis maintenant, ils se sont détournés complètement. Le fait, est-ce qu'ils sont sauvés ou ils ne sont pas, ça, c'est entre eux autres et le Seigneur. Des fois, c'est difficile pour nous autres de le dire. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de continuer dans le Seigneur, à cause de l'espérance en avant nous. Dans Matthieu 6, 33, il nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » On a tendance des fois à chercher les choses, mais il nous dit que ce n'est pas ça qui est l'important. Ce n'est pas les choses. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour ce qu'on va manger, ce qu'on va se vêtir, la façon qu'on va être pris soin sur la terre. Mais ce qui est important, c'est de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Puis toutes ces choses-là, ils nous sont données par-dessus. C'est de vraiment s'abandonner. Ça, c'est seulement la foi qui peut s'abandonner complètement au Seigneur dans tous ces domaines-là, afin qu'on ne soit pas empêché de courir dans la carrière. Parce que si on s'inquiète, comme il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas que les soucis, les fardeaux, les tracas nous empêchent de courir dans la carrière. Dans le psaume 127, les versets 1 à 2, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, si on s'en remet complètement dans les mains du Seigneur et qu'on est soumis, le Seigneur, il va nous donner ce qu'on a besoin. Des fois, il ne nous donnera pas ce qu'on veut nécessairement, mais il va nous donner ce qu'on a besoin. Parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse continuer à avancer. Puis, en regardant lui, il y a des gens qui vont passer leur vie pour poursuivre des choses, que ce soit la richesse, la gloire ou des choses comme ça, qui, à la fin, ils vont tout perdre de nous. Mais nous, on ne perd pas notre espérance parce qu'elle est devant nous. Alors, ça peut être des choses qu'on veut à tout prix. Il y a des gens qui veulent tellement, qui sont consumés par des choses parce qu'ils veulent avoir ces choses-là à tout prix. Alors, ça peut être le travail. Des fois, on dit, ouais, mais j'ai pas le choix, il faut que j'aille travailler. Oui, il faut qu'on aille travailler, c'est normal. Le Seigneur dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais si on cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, on va pouvoir aller travailler quand même après, mais la priorité est sur le royaume et la justice de Dieu. C'est vraiment notre vie spirituelle qui est plus importante. Des fois, il y a des gens qui vont déménager pour le travail parce qu'ils disent, ben, faut qu'on travaille, on n'a pas le choix, mais ça a été un mauvais choix si l'endroit où ils sont allés pour le travail les a fait se détourner du Seigneur, puis se détourner de la vie chrétienne pour manquer le but, ben, c'est quoi à la fin, dans l'éternité, est-ce que ce travail-là va avoir été important? Non. Mais il va avoir perdu des récompenses, il va avoir perdu Ils vont manquer la course. C'est ça qui est important. Ça peut être les loisirs. Il y a des gens que pour eux, c'est les loisirs passent avant le Seigneur. Puis même, il nous dit que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles parce que les hommes, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Donc, que ce soit des loisirs, c'est pas mauvais. C'est pas des choses qui sont mauvaises en soi, nécessairement. Les loisirs, on a besoin des loisirs, mais il faut donner la priorité au royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses-là, on nous est donné en plus. Le Seigneur nous donne des moments pour ces choses-là, mais si on met lui en premier, c'est ça qui est important ici, là, qu'il faut jamais oublier ça. Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 2, 3, 4, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Quand tu t'en vas au front, là, t'amènes pas toutes tes affaires, là. T'amènes juste le nécessaire parce que tu sais que tu pourras pas performer dans ton combat si tu es embarrassé de des choses qui ne sont pas nécessaires. Pas nécessairement mauvaises, mais qui ne sont pas nécessaires. Donc, il faut mettre la priorité sur ce qui sera important pour l'éternité. La deuxième chose qui peut nous empêcher de courir dans la carrière, c'est le péché. Le péché, c'est tout un problème. Vous savez, on est dans un monde de péché. On a une nature de péché. Même si on est sauvé encore, on a encore cette nature de péché en nous. On a la tentation qui vient de l'intérieur, qui répond à la tentation extérieure. Mais combien de gens ne courent plus dans la course à cause du péché dans leur vie? Il y en a plusieurs qui ont abandonné la course à cause du péché. Parce que puis dans Matthieu 24, 12, il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Puis on sait que l'iniquité, elle s'accroît tellement dans le monde dans lequel on vit présentement. Mais si on regarde ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'amour va se diminuer, puis elle va se refroidir. Puis ça va nous empêcher. Le péché empêche plusieurs de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Puis il faut vraiment se garder du péché. C'est vraiment quelque chose d'important. Le péché, vraiment, là, quand on tombe dans le péché, c'est qu'on est centré sur le moment présent. Parce que le péché, oui, il y a une saison du plaisir dans le péché, mais c'est momentané. Puis c'est vraiment quand on s'arrête au moment présent. Ça, c'est le contraire d'avoir l'espérance devant nos yeux, hein, en échange de la joie qui lui était réservée. Donc, le péché, c'est vraiment d'être centré sur le moment présent, de satisfaire une passion au moment présent. Puis on sait que ça dure pas. Mais quand le péché est consommé, ben c'est la mort. Puis dans Jacques 1, 14 à 15, il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, vous savez, c'est vraiment perdre la bataille quand on tombe dans le péché. Parce qu'on lutte contre le péché. C'est vrai que c'est une lutte. On a à lutter dans nos membres constamment. Tous les jours, on a à lutter contre le péché. Mais quand on est défait par le péché, là, bien, ça nous change complètement, puis on n'est plus les mêmes personnes. Autant, quand quelqu'un est sauvé, pour les gens du monde, puis pour nous autres aussi, il y a une transformation qui se fait quand quelqu'un est sauvé de son péché. Tout d'un coup, il n'est plus la même personne. Puis pour les gens, que ce soit un époux ou une épouse, que son conjoint se convertit, ben, ils vont dire, t'es plus le même. Non, parce qu'il y a eu un changement radical dans sa vie. Mais de l'autre façon, quand un chrétien tombe dans le péché, puis qu'il veut pas se confesser son péché pour revenir, pour être restauré, ben, il est complètement différent. Je pense qu'on a pu connaître ces choses-là. Hein. On a des gens qui ont été parmi nous, qui ont été avec nous, avec lesquels on communiait spirituellement, puis tout d'un coup, ils sont partis, puis c'est plus la même chose. Ça m'est arrivé une fois de rencontrer, c'était un chrétien que je connaissais, on avait du bon temps, on parlait du Seigneur toujours ensemble, puis on avait de la joie de parler du Seigneur, puis il est tombé dans le péché. Puis il s'est détourné du Seigneur. Puis à un moment donné, on s'est rencontrés dans un restaurant. Puis on est arrivé face à face, puis quand on s'est vu, ça a fait lui a eu une réaction, puis moi aussi, on était comme contents de se voir, mais d'un autre côté, lui, il est parti parce que c'était plus la même chose. Parce que on avait toujours parlé du Seigneur ensemble, on n'avait pas d'autre sujet. Lui, il est parti puis s'est en allé. Parce que on ne pouvait plus parler de ce qu'on parlait, de ce qui faisait la joie de nos cœurs. On ne pouvait plus en parler ensemble. Ça, c'est triste. Le péché, il fait ça, là. Parce que, comme dans le verset 1, il nous dit, le péché nous enveloppe si facilement. Il nous enveloppe, il nous entoure, il est tout autour de nous pour nous empêcher d'avancer dans la carrière. C'est pour ça qu'il faut résister au péché. Puis dans le verset 4, il nous parle de résister. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ça, c'est important, là. C'est vraiment, si on laisse le péché nous envelopper, eh bien, on pourra pas continuer dans la course qui nous est ouverte, la carrière qui nous est ouverte. Et aujourd'hui, vous savez, la sexualité, c'est un obstacle terrible pour faire tomber plusieurs. Puis, il faut faire attention à ces choses-là. On parle de pornographie. Vous savez, la pornographie est tellement accessible aujourd'hui. Puis, c'est triste de voir qu'il y a des gens, même des chrétiens, qui sont pris dans la pornographie. Parce que c'est facile de tomber dans ces choses-là, mais c'est pas facile de s'en défaire. Puis, il faut faire attention à ces choses-là. On pense à des relations illicites. Et toutes ces choses-là, ça va nous empêcher de courir dans la carrière. Ça va nous faire tomber. C'est pour ça, des fois, qu'on voit des chrétiens qui sont plus animés du même zèle. Ils n'ont plus cette joie-là. Ils ont plus, on a, ils marchent dans la défaite parce qu'ils se sont laissés envelopper par ce péché-là. Il faut faire vraiment attention. Puis aujourd'hui, il faut réaliser que ces choses-là sont réelles. C'est tellement accessible. Il ne faut jamais aller jouer avec ces choses-là parce que ça va vraiment nous envelopper puis nous empêcher de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Mais la troisième chose qu'on voit, elle est plus subtile encore, parce que c'est l'âme découragée. Quand il nous dit au verset, il dit comme, oh, attendez un petit peu, au verset 4, vous n'avez pas, oh non, au verset 3, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. C'est subtil dans un sens parce que c'est en faisant le bien qu'on vient décourager. Parce que c'est sûr qu'on est constamment en lutte à faire le bien, puis c'est contraire au monde dans lequel on vit, c'est contraire même à notre nature de faire le bien, puis on peut se lasser ou avoir l'âme découragée en faisant le bien. Parce que dans 2 Thessaloniciens 3, 13, il dit, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Donc, c'est une exhortation qu'il donne aux Thessaloniciens, ne vous lassez pas, parce que c'est possible de se lasser, l'âme découragée. Quand on fait le bien, on peut dire, ah ben, ça ne donne pas grand-chose, ou on voit tellement d'opposition constamment qu'on finit par dire, ah, moi, je suis plus capable, là, je suis plus capable, là, je suis vraiment là de toujours lutter comme ça, puis j'arrête de lutter. Il ne faut pas faire ça. Dans Galates 6, 9, encore une fois, Paul y donne aux Galates une exhortation, ne nous lassons pas de faire le bien. Donc, c'est possible de se lasser, parce que s'il donne une exhortation, c'est parce que c'est possible de se lasser. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâcherons pas. Donc, il nous fait regarder encore vers l'espérance, là. Si au temps convenable, si on ne s'est pas lassé, on va moissonner. Mais il ne faut pas se relâcher, il faut continuer. Parce que souvent, le découragement, là, nous frappe après une grande manifestation de puissance. C'est comme Élie, hein? Élie a fait une grande manifestation de la puissance de Dieu, là, sur le mont Carmel. Quand on parle de ce qu'Élie a fait, là, pour prouver la réalité de Dieu à ces gens-là qui suivaient des faux dieux, Baal, eh bien, il a fait tout un exploit, là. C'est quelque chose qui a vraiment fait un exploit merveilleux de montrer la réalité de Dieu. Mais après ça, il était découragé. Il était découragé à cause du fait que le peuple n'a pas répondu. Il a fait une grande manifestation, le feu qui est descendu du ciel puis a consumé le sacrifice en dépit de toute l'eau qui avait été versée autour, puis tout ça. Il a vraiment montré, puis quand les prophètes de Baal, eux, il n'y avait eu aucune manifestation de leur Dieu. Mais après ça, ils étaient découragés parce que c'est comme si ils n'ont pas répondu. Jézabel, elle voulait le faire mourir parce qu'elle n'a pas compris le message. Elle supportait des prophètes de Baal. Mais là, les prophètes de Baal, ils n'avaient pas réussi à montrer de la puissance. Mais Élie, lui, il avait montré. Puis, il était comme. Après ça, il était vraiment découragé de ça. Mais donc, on a ici les trois choses là, c'est des fardeaux qui nous empêchent de courir, le péché qui nous enveloppe si facilement, puis l'âme découragée. Mais dans un sens, on voit la solution à ces trois choses-là, là, c'est le châtiment ou la réprimande du Seigneur. C'est ça qui est la solution, c'est le châtiment du Seigneur. Puis quand on pense à châtiment, on pense, d'habitude, c'est qu'on pense à quelque chose de négatif, mais vraiment le châtiment du Seigneur n'est pas négatif, il est positif. Puis c'est vraiment la solution pour nous garder, parce qu'on a regardé dans le chapitre 11, il y a une si grande nuée de témoins, des gens qui ont marché par la foi, mais quand on lit dans Hébreux 11, il ne nous est pas donné nécessairement, leurs manquements ne sont pas donnés. Mais quand on va lire leur histoire dans la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'eux ont manqué parfois. Oui, ils ont été des hommes de foi, des femmes de foi, mais ils ont eu des manquements. Mais c'est le Seigneur qui les a ramenés par le châtiment. Puis la solution à ce qu'on puisse continuer à courir avec persévérance dans la carrière, c'est le châtiment du Seigneur. Il dit dans le psaume, il dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Parce que le bâton, c'est pour la discipline, la houlette, c'est pour la direction. Puis le Seigneur, il va nous garder dans le châtiment, il va nous ramener. Puis ça, c'est vraiment important d'avoir ça. C'est vraiment par amour que le Seigneur le fait, là. Ici, dans le verset 5, il dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc ici, là, il cite le Proverbe 3, 11 à 12. Puis, le châtiment, c'est le moyen qui est utilisé pour nous faire parvenir à la gloire. Puis, on devrait remercier le Seigneur pour le châtiment qu'il nous apporte pour nous ramener. C'est ça, il va le faire, il ne va pas nous laisser. Le Seigneur ne va pas nous laisser errer, il va nous ramener. Ça, c'est une bénédiction. Vous savez, dans 1 Corinthiens 11, verset 32, il dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Notre destination à nous autres qui sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le monde, eux, ils s'en vont vers la condamnation, le jugement éternel. Mais nous, il n'y a pas de condamnation pour nous. Il n'y a pas de jugement éternel pour nous, mais il y a un châtiment. Parce que le Seigneur, il ne nous laisse pas aller comme le monde. C'est comme il y avait David Long qui était un missionnaire en Afrique, puis les jeunes, les enfants des missionnaires, ils avaient été volés des mangos dans les arbres des autres. Puis quand lui, il les a pris en train de faire ça, puis il leur a dit de s'en aller chez eux, puis de laisser ça là, puis il a pris son garçon, puis il l'a châtié. Puis son garçon, il dit, ouais, mais comment ça, tu châties pas les autres? Mais il dit, les autres, c'est pas mes garçons. Mais toi, t'es bon garçon, puis je veux pas que tu sois un voleur. Puis il a châtié son garçon. Puis c'est comme ça que le Seigneur, il nous traite. On n'est pas des fils illégitimes. On n'est pas des enfants illégitimes. On est ses enfants, puis il va nous châtier pour nous faire participer à sa gloire. Vous savez, le châtiment, là, c'est plein d'amour et de tendresse. On voit regardez dans le verset 5 et le verset 6, il parle de fils. Donc, c'est la relation père-fils. Dans le verset 7, il dit que c'est comme un père que Dieu. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Donc, c'est la relation père-fils. Dans le verset 6, il dit il châtie ceux qu'il aime. Donc, il parle d'amour ici, c'est par amour. Dans le verset 10, c'est pour notre bien. Il dit que c'est Dieu nous châtie pour notre bien. Il parle de participer pour qu'on soit participant de sa sainteté, pour nous corriger, pour qu'on soit dans la sainteté, pas dans le péché. Puis dans le verset 11, il parle de la joie. C'est un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Donc, il parle de fruit paisible de justice. Dans le verset 9, il dit pour avoir la vie. Donc, c'est tout des, ces termes-là, ce n'est pas des mauvais termes, c'est tous des bons termes. C'est des choses que, puis c'est le châtiment qui amène ces choses-là. C'est par amour. Donc, le châtiment est en rapport avec les trois problèmes, c'est-à-dire les fardeaux. Si on s'accorde de fardeaux qui vont nous empêcher de courir, le Seigneur peut nous les enlever par le châtiment. Si on est enveloppé par le péché, bien, le Seigneur peut nous, il va nous châtier aussi pour qu'on puisse avoir la victoire sur le péché. Puis si on a l'âme découragée, bien, il va nous ramener aussi, par le châtiment, il va nous ramener aussi. Une fois, j'étais découragé pas mal à cause de tout ce qui se passait. Puis j'étais dans la présence du Seigneur pour me faire réconforter. Je pensais que le Seigneur allait me donner une parole de réconfort, mais non, il m'a donné plutôt une réprimande. Puis la réprimande, c'était que j'avais mis ma joie dans ce qui se passait dans le service au lieu de la mettre en lui. Puis j'avais lu dans la parole de Dieu que si j'avais ma joie en lui, ben, il dit, ne vous réjouissez pas. Cependant, ne vous réjouissez pas du fait que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Puis ça n'avait pas changé, ça ne peut pas changer. Mais ma joie était à la mauvaise place. Le Seigneur m'a châtié pour me ramener la joie parce que mon nom était toujours écrit dans les cieux. Puis ça ne peut pas changer. Donc là, j'ai confessé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'avais mis ma joie dans le mauvais endroit. Puis c'est sûr qu'on a de la joie quand ça va bien, mais quand ça ne va pas bien, notre joie, elle doit demeurer parce qu'il y a des choses qui sont inchangeables. On est des enfants de Dieu, nos noms sont écrits dans le royaume de Dieu. Donc, c'est important. Le Seigneur va nous corriger dans notre voie pour nous ramener à lui. Puis là, on est rendu à presque moins 10. Fait que je vais m'arrêter là pour tout de suite. On continuera, le Seigneur voulant, la semaine prochaine. Et je vais vous donner la possibilité ici de prendre votre micro, puis de pouvoir, attendez un petit peu, pour de pouvoir avoir des commentaires ou des questions. Donc, je vous donne la possibilité maintenant de prendre votre micro.
Là, tu peux parler.
On connaît bien Philippiens au chapitre 2. Les trois premiers versets de ce chapitre-là m'ont fait penser à Philippiens chapitre 2, que j'aime beaucoup, qui me donne dans mon cœur un esprit de reconnaissance et d'adoration pour le Seigneur. On lit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Puis la suite est encourageante, c'est un sujet d'adoration. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus du nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, c'est une expérience
Il a commencé
contraire.
à clôturer.
On a parlé de Satan.
Oh,
C'est
on va voir ça.
une expérience contraire que le Seigneur Jésus a vécue par rapport à Satan. Et on voit aussi le principe, un principe dans la parole, c'est que l'humilité précède la gloire, tandis que la gloire amène l'humiliation. Quand c'est la gloire qui est en premier, ça amène l'humiliation. Le Seigneur Jésus a connu l'humilité, et puis la suite, ça a été la gloire.
Il y a un problème sur l'unité qui précède la gauche.
Parce que Lévi veut parler. Tu réussis pas à mettre ton micro, Lévi? On va attendre un petit peu. On va regarder ça. OK. Est-ce que tu peux le prendre maintenant?
OK,
Oui.
merci.
Non.
Merci, Donald, pour la réflexion. Je voudrais revenir au verset, Jacques, dans l'Évangile de Jacques, justement. Pas Jacques, mais Gérard.
Oui.
On lisait, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. C'est-à-dire, le péché brise la communion avec Dieu. Alors, si le péché est confessé, la vie revient. Est-ce que je comprends bien?
Oui, c'est ça, oui. Parce que quand tu parles de vie et de mort, au point de vue spirituel, c'est vraiment le contact avec Dieu, la communion avec Dieu. Et quand le péché brise la communion, mais quand il est confessé, le Seigneur il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Fait qu'on revient en communion.
Merci.
Ça, le péché, ça nous enveloppe si facilement, puis on voit que quelqu'un qui tombe dans le péché, tout de suite, on voit que ça fonctionne plus, là. Il y a plus la communion qu'on avait auparavant. Et dans 1 Jean, il parle, 1 Jean 5, il nous parle du péché qui mène à la mort. Est-ce que c'est la mort physique? Je pense que c'est la mort spirituelle. Faut faire attention, c'est un chemin qui est jonché de difficultés puis de problèmes et il nous mène vers la gloire. Pour ceux qui ont lu le livre de John Bunyan, le voyage du pèlerin, c'est vraiment constamment quand on lit son livre, c'est. Puis lui, il était en prison quand il écrit ces choses-là. Donc, il vivait vraiment. Nous autres, on n'a pas des si grandes difficultés que ceux qui sont persécutés, qui ont à souffrir constamment pour leur foi en Dieu. Mais lui, John Bunyan, quand tu lis son livre, c'est quasiment décourageant parce que c'est des difficultés après difficultés, mais il y a la persévérance pour arriver au but. Mais des fois aussi, c'est pas ça qui nous est présenté. Des fois, quand l'Évangile est présenté, on nous dit que si on accepte le Seigneur Jésus, on n'aura plus de problème, puis tous nos problèmes vont être réglés. Mais on expérimente, c'est souvent le contraire. Du moment qu'on accepte le Seigneur Jésus, c'est là qu'on commence à avoir des difficultés, puis des combats qu'on n'avait pas auparavant. Bon, c'est sûr qu'il y a des combats dans le monde, il y a des difficultés dans le monde, mais il y a des combats, puis il y a des difficultés qui appartiennent seulement à ceux qui ont décidé de suivre le Seigneur Jésus dans ce chemin de la foi-là. Des persécutions à cause du Seigneur Jésus, à cause du fait qu'on veut le suivre, puis qu'on ne veut pas se joindre au monde. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où ils les visiteront.
Je reviens encore à merci, Gérald. Quand on lit dans 1 Corinthiens, pour le repas du Seigneur, hein, il est question, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. À ce moment-là, disons, peut-être qu'il y a eu châtiment, mais la personne a continué, comme il appartient à Dieu, sa vie est enlevée. Mais il y a toujours son salut.
Ouais, c'est comme il dit aux Corinthiens, Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que son âme soit sauvée au jour du Seigneur Jésus. Parce que c'est ça, le salut ne se perd pas, mais la communion avec Dieu se perd. C'est ça qui est l'enjeu ici, mais de la même façon, le Seigneur nous châtie pour nous ramener. Puis ça, c'est précieux. Vous savez, un enfant, il y a des enfants maintenant qui ne sont jamais châtiés. Puis on dirait que c'est comme s'ils cherchaient le châtiment. Puis dans le châtiment, il y a de l'amour. Parce que si on aime quelqu'un, on va les châtier pour les corriger. Parce qu'on a besoin, nos enfants, si on les aime, on veut puis des fois, il va peut-être ça d'un mauvais œil, comme ils disent. Le châtiment, ça peut être comme un sujet de tristesse pour le moment, mais ils voient ça comme d'un mauvais œil, mais c'est parce qu'on veut les protéger. On ne veut pas qu'ils se trouvent dans des problèmes, dans des difficultés, qui s'éloignent puis qui brisent même la communion avec nous autres. On va
Notre...
les.
Oui,
Oui, vas-y.
excusez.
Non, vas-y, vas-y.
Je prends la parole parce que il n'y a pas beaucoup qui la prennent. C'est pas une accusation, au contraire. C'est parce que quand mon père m'a châtié ou m'a châtié, il avait sa raison. Il ne le faisait pas inutilement.
Non.
Mais j'ai appris à aimer mon père et à le respecter à travers ça.
Ouais, souvent, les enfants qui ne sont pas repris ou corrigés ou instruits, ils vont finir par haïr leurs parents parce que d'un côté, on a besoin de cet encadrement-là qui est un encadrement d'amour pour nous empêcher de se détruire parce qu'on a cette nature-là d'être attiré par le mal. Mais le mal va toujours nous détruire. Puis, des parents qui aiment leurs enfants vont les corriger. Mais c'est sûr qu'on. Oui, c'est Richard.
Quand on regarde le châtiment à court terme, comme la parole le dit, c'est triste. Et souvent, on ne voit pas la conséquence à long terme. Et le Seigneur, lui, étant donné qu'il voit des choses que nous, on ne voit pas, bien, il nous amène à la perfection. C'est certain qu'on ne pourra pas rentrer dans la présence du Seigneur comme on est là, avec une nature pécheresse dans notre corps. Donc, il nous amène, puis chaque victoire qu'on a, mais c'est dans le but d'être de plus en plus parfait pour le jour du Seigneur. Je trouve aussi que l'attitude du croyant doit toujours être humble. Parce que quand on part de zéro, on ne s'attend pas à beaucoup. Mais quand on pense qu'on est au niveau 3, bien là, c'est très triste de vouloir rétrograder.
Oui.
Dans l'humilité, on ne s'attend pas à beaucoup. On s'attend à ce que le Seigneur nous aide à aller où il veut nous amener dans la perfection.
À progresser.
Oui, c'est ça, à progresser, oui.
C'est ça, c'est... Okay. On doit apprécier le fait, comme David, on parlait de David, quand David dit « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. » Pourquoi? Parce que David était dans le péché. Mais après qu'il a été restauré, David était content, parce qu'il était malheureux, il était dans une situation malheureuse, mais il avait besoin du châtiment du Seigneur pour le ramener. Puis nous autres aussi, on en a besoin.
Et c'est un beau passage aussi quand David pêche, puis il fait le décompte du peuple, puis des soldats, puis tout ça, et il s'aperçoit de sa faute, puis il accepte le châtiment. Puis le Seigneur, il fait un choix de trois options. Il dit, j'aime mieux tomber dans les mains du Seigneur parce que lui, il est capable de miséricorde et de grâce.
Ouais, ses compassions sont grandes.
Pour moi, c'est un des passages les plus stimulants puis qui m'émerveille de David.
Oui, c'est vrai.
C'est un bel exemple d'humilité parce que l'humilité nous pousse à demander pardon à Dieu pour nos péchés.
Exactement. C'est l'orgueil qui nous empêche. Oui,
Oui.
à fait.
ouais, c'est ça. L'orgueil nous empêche de s'humilier devant lui. C'est ça que David, pendant au moins un an, David était dans le péché à cause de Bathsheba, avec Bathsheba. Puis c'est quand Nathan est venu vers lui pour le pointer. Il s'est humilié.
Je reviens encore concernant Corinthiens. Ça ne veut pas dire quand on est malade que c'est un châtiment, mais ça peut arriver que si on est châtié, ça entraîne la maladie, le Saint-Esprit nous le dit. C'est ça la différence.
Pense que
C'est
c'est
ça.
mieux de le reconnaître en nous autres quand ça nous arrive que de le reconnaître dans les autres. Parce que ça.
Faut distinguer entre l'épreuve et le châtiment.
Oui.
Oui.
Parce que c'est difficile. C'est ça le problème des amis de Job. Ils voyaient comme un jugement à cause de son péché, mais c'était pas ça du tout. Il faisait fausse route. Ouais.
Mais c'est l'esprit qui le fait, ça.
Si ça m'arrive à moi, là, je peux juger ma situation, mais de juger les autres, il faut faire attention. Parce que des fois, ça peut nous retomber sur le nez. Donc, on est arrivé à notre temps. On va peut-être terminer par un mot de prière. Ceux qui doivent partir vont pouvoir partir. Puis, c'est ceux qui, s'il y en a qui veulent continuer de jaser, bien, on pourra jaser. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois pour ta parole qui. On sait que c'est des choses, Seigneur, qui sont peut-être contraires à notre façon d'être naturellement, mais on s'humilie dans ta présence, Seigneur. Puis on reconnaît que tes voix ne sont pas nos voix, mais que tes voix sont au-dessus de nos voix. On te remercie, Seigneur, de ce que tu nous as appelés à courir dans une carrière vers l'espérance qui est devant nous, puis qu'on puisse être capable de supporter toutes les difficultés, puis de demeurer ferme. Puis, oh, Seigneur, quand on manque, on te remercie pour ton châtiment qui nous corrige, puis qui nous reprend. On te rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.